Ce que j'avais envie de dire, au-delà de décrire quelques dispositifs utilisés à l'étranger et d'aborder un peu la question de leurs effets, c'est d'abord de commencer par dire qu'il est possible, et on le voit entre autres à partir de conférences, des études PISA, il est possible de réduire les difficultés scolaires. Il n'y a aucune fatalité au fait qu'un élève sur 5, ce qui est le cas plus ou moins en France, se retrouve à 15 ans dans une situation où il ne maîtrise pas des acquis qu'on considère, donc dans l'enquête PISA, nécessaires pour une poursuite de la scolarité et pour une intégration réussie dans la vie adulte. Donc on voit qu'il y a des pays, notamment des pays asiatiques souvent, Singapour, la Corée, le Japon, mais aussi des pays européens, l'Estonie, la Finlande, la Suisse, le Canada, la Pologne, les Pays-Bas, où le taux d'échec scolaire, si on peut, le taux d'élèves en difficulté est beaucoup plus bas. Et on voit aussi sur ce même graphique qu'il y a des pays qui, dans le même temps où en France les difficultés scolaires avaient plutôt tendance à augmenter, ont réussi à les diminuer. Donc on peut aborder cette question de quels sont les dispositifs utilisés à l'étranger en essayant de voir, d'essayer de se concentrer en partie sur ces pays et de voir que font ces pays pour lutter contre les difficultés. On a par ailleurs en lecture à peu près le même graphique avec là encore plus ou moins le même pays qui se retrouve devant la France en termes de la faiblesse du nombre d'élèves en échec. Et encore une fois la Pologne, la Suisse, l'Allemagne qui ont connu une forte réduction du taux d'échec de leurs élèves pendant cette période. Alors la question elle était posée autour des dispositifs. Alors il faut savoir que des dispositifs ils ne sont pas toujours... Enfin, j'ai eu un peu un travail à faire à interpréter qu'est-ce qu'on entend par dispositif, parce que souvent ça mélange beaucoup d'actions en fait, de natures différentes, et elles ne sont pas toujours formalisées en fait. C'est pas toujours comme le redoublement, on ne sait pas qui bénéficie d'un dispositif et qui ne bénéficie pas, surtout lorsqu'on rentre plutôt dans des pratiques des enseignants, des pratiques professionnelles qu'ils mettent en place sans nécessairement que ça donne que ça génère un besoin de ressources additionnelles, que ça pose des contraintes aux autres enseignants ou aux parents, et que donc sans nécessairement besoin de les formaliser. On peut néanmoins donc classer un peu ces dispositifs en trois catégories. Donc d'une part, il y a des dispositifs qui consistent essentiellement à augmenter le temps à l'école, le temps de travail des élèves, le temps d'apprentissage. D'autre part, des dispositifs qui consistent à différencier les contenus proposés aux élèves. Et troisièmement, des dispositifs qui consistent à adapter les pratiques pédagogiques. Alors, une petite parenthèse, comment mesure-t-on les effets de ces dispositifs ? Donc on a des enquêtes internationales, et là on mesure des effets en fait. On mesure assez bien des effets, on ne mesure pas très bien les causes en fait. On peut observer les effets notamment au niveau du système, donc pas que sur les élèves en difficulté, on peut voir aussi les effets sur les élèves qui ne sont pas en difficulté, mais on ne raisonne jamais en fait ni dans les comparaisons internationales ni dans les comparaisons dans le temps, toutes choses égales par ailleurs. En fait, attribuer ces effets qu'on voit à des causes très précises est un sujet d'interprétation, et c'est un peu le travail des chercheurs, mais aussi le sujet d'un débat au sein des chercheurs. D'autre part, on a des études qui isolent bien les causes, en fait. C'est des études expérimentales et parfois des études quasi-expérimentales. Là, on isole les causes. On ne mesure pas forcément l'ensemble des effets, en fait. C'est des avantages parfois de ces études. Et d'autre part, elles sont situées, lorsqu'on a des projets justement qui sont mis en place de manière expérimentale, c'est souvent dans un contexte très précis. Et donc la difficulté, c'est aussi qu'est-ce qui se passerait si jamais on généralisait ces projets à l'ensemble d'un pays. Est-ce qu'on pourrait généraliser aussi les effets qu'on pense les effets de ces dispositifs. Donc là, je vais mélanger un peu les preuves pour vous parler des dispositifs, mais parlons un peu de ces dispositifs que je vais récapituler. Augmenter le temps, différencier les contenus, adapter les pratiques pédagogiques. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on augmente le temps de l'école, le temps d'apprentissage? En général, c'est une des variables en fait, pour lesquelles il y a plus de consensus que c'est un effet positif. Et d'ailleurs, c'est même l'intention un peu du redoublement, d'augmenter le temps, de donner plus de temps aux redoublants pour maîtriser les, des contenus qu'ils n'ont pas acquis dans le temps régulier de l'école. Alors ça a ça a plusieurs inconvénients en fait. D'une part, c'est coûteux, comme le redoublement, parce que le temps ça coûte en personnel. Et d'autre part, il faut passer des intentions à la réalité. Est-ce que on a... Est-ce qu'on passe effectivement lorsqu'on redouble, mais aussi quand on demande à un élève d'aller à l'école une semaine pendant les vacances scolaires, quand on demande à un élève de rester à l'école l'après-midi, est-ce que ce temps se traduit effectivement en temps réel d'apprentissage? Alors je dirais qu'il y a deux conditions pour que ce soit vrai. C'est d'une part la qualité des enseignants. Il faut que des enseignants qui œuvrent dans ce temps additionnel soient des enseignants de qualité. Et d'autre part, l'adhésion de l'élève et de sa famille, et ça peut varier aussi en fonction de l'âge. Sans l'adhésion de l'élève, la famille, le temps additionnel il risque de ne pas se traduire en temps d'apprentissage. Alors il y a beaucoup d'exemples en fait, et beaucoup d'exemples aussi dans ces pays qui ont du succès dans la lutte contre les difficultés scolaires. Donc c'est très populaire, enfin remédier aux difficultés avec des cours l'après-midi, des cours pendant l'été, des cours le samedi, c'est très répandu dans de très nombreux pays. Ça se fait en France en fait aussi en partie, ça se faisait avec l'accompagnement éducatif par exemple, ça se fait en Italie dans mon pays, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait aussi d'une manière au Japon, en Corée qui ont très peu d'échecs, mais là ça se fait surtout avec le recours des familles à des cours privés après l'école. Il y a un exemple un peu différent, c'est qui correspond en fait que j'ai retrouvé dans la présentation sur le Luxembourg. C'est à la fois un dispositif de rémédiation et de prévention des difficultés ultérieures liées au redoublement au moment où on sépare en filière. Alors en Suisse, en Finlande, en Irlande, il faut savoir que ces pays-là, ils ont tous des taux assez faibles d'élèves en difficulté à 15 ans. Il y a la possibilité pour les élèves de faire une 10e année optionnelle, de redoubler en quelque sorte la dernière année avant le lycée. Et en général, c'est des cours séparés, c'est pas vraiment un redoublement, c'est en fait, on fait une 10e année de transition, ça s'appelle souvent Transition Year en Irlande, ou 10e année tout simplement, donc c'est pas une 2e, 9e année. On a à la fois justement un mélange de rémédiation quand c'est des difficultés, on a aussi beaucoup d'orientation en fait pour que l'orientation ultérieure soit bien, corresponde bien aux souhaits des élèves et à leurs compétences. Alors différencier les contenus, c'est le deuxième ordre de dispositif. Là les effets sont mixtes, parfois mitigés, mais en tout cas mixtes. Il peut y avoir des effets positifs, à condition, d'une part, de garder que lorsqu'on sépare les élèves, on expose les élèves à des contenus différenciés. Donc ça peut se faire par une filiarisation, mais ça peut se faire au sein d'une même école, avec des classes de niveau, ça peut se faire au sein d'une classe avec des groupes de niveau. Alors en général, il faut garder une condition de succès, c'est de garder des attentes de réussite élevées afin de prévenir des potentiels effets de démotivation et désinvestissement des élèves. C'est là qu'en général, c'est garder des attentes de réussite élevées, ça passe par des dispositifs flexibles qui sont mis en place souvent pour une durée limitée ou qui peuvent être mis en place parfois pour une durée limitée et qui se limitent aussi à certaines matières ou aux matières en difficulté où on ne sépare pas systématiquement pour l'ensemble des cours les élèves en classe de niveau, en groupe de niveau. Notamment pour les mathématiques, il y a souvent des effets positifs parce qu'il y a une claire séquence dans la progression des apprentissages. Pour d'autres matières, il n'y a pas forcément une séquence nécessaire à respecter et donc il n'y a pas les effets négatifs sur la motivation des élèves, sur le désinvestissement des élèves sont potentiellement plus forts que les effets positifs. Alors la séparation en filière dès le collège ou dès la fin du cycle primaire, ça se pratique dans beaucoup de pays de l'ère germanique, en Allemagne, en Autriche, dans beaucoup de cantons suisses. On constate, à partir aussi des enquêtes PISA, que souvent dans ces pays qui pratiquent une séparation précoce, la motivation des élèves pour l'apprentissage des mathématiques, par exemple, est plus basse que dans des pays qui ne pratiquent pas une séparation en filière. Et d'autre part, on voit que deux pays qui ont en fait lutté plutôt pour réduire cette séparation, la Pologne et l'Allemagne elle-même, sont justement deux exemples qui ont su réduire le taux d'élèves en grande difficulté pendant ces années-là. Cela ne veut pas dire que pour autant on n'adapte pas dans ces pays les pratiques, les contenus au niveau des élèves. En Pologne, en fait, en grande partie, on a effectivement retardé l'âge auquel on séparait les élèves en filières. Au tout début des années 2000, il y a eu une réforme importante qui a eu pour effet cela. Une des conséquences, c'est qu'on pratique beaucoup plus au sein des classes, des groupes de niveau dans l'enseignement des mathématiques. Donc on retrouve quand même une séparation des contenus. Les groupes de niveau et les classes de niveau, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans beaucoup de pays. On retrouve dans tous les pays anglo-saxons, en gros, ça se pratique. En Nouvelle-Zélande, je donne l'exemple dans mon texte. Au Canada, aux États-Unis, c'est très répandu. J'ai fait l'exemple de la Pologne, où c'est beaucoup plus fait à partir du moment où on avait allongé la durée du collège, en fait, essentiellement. Et en Finlande, par exemple, on a un dispositif qui on a essentiellement pas de redoublement, mais en fait au supérieur, on peut redoubler des matières, on peut choisir, on a une organisation modulaire des enseignements, donc on peut redoubler certains modules qui correspondent à des matières, sans pour autant redoubler l'ensemble de l'année. Donc la dernière classe de dispositif, c'est d'adapter les pratiques pédagogiques. Et là, il faut aller vraiment dans le détail pour vous donner une bonne description, mais je pense que c'est l'objet aussi de d'autres séances aujourd'hui, de vous présenter des pratiques pédagogiques qui ont du succès dans la lutte contre les difficultés scolaires. Alors, j'ai juste mentionné dans mon texte, vous avez le travail qui a été fait au Royaume-Uni par une fondation de traduire les preuves qui viennent justement d'études expérimentales et quasi-expérimentales dans des outils à disposition des enseignants et des écoles et qui font un classement essentiellement des pratiques efficaces à partir d'une analyse globale de la littérature. Donc trois exemples de pratiques très efficaces en général sont des approches métacognitives et d'autorégulation. L'apprentissage de stratégies de compréhension de l'écrit, ça peut aussi quelque part se rapprocher de cela. Ça consiste à aider l'élève à réfléchir sur son apprentissage, à se fixer des objectifs, à s'auto-évaluer, à avoir une conscience plus riche du processus d'apprentissage. L'apprentissage coopératif et le tutorat par les pairs aussi sont souvent cités comme pratiques efficaces. Ça consiste à avoir les élèves qui travaillent en petits groupes, des groupes assez petits pour que chaque élève travaille effectivement, avec des tâches définies de préférence, avec la participation donc active de tous les élèves. Et enfin, l'apprentissage social et affectif, là on n'agit pas tellement sur les aspects cognitifs et académiques des apprentissages, mais sur la motivation, le bien-être et la discipline à l'école. Et ça a en général des très bons effets au niveau des élèves en difficulté. Le coût de ces pratiques est en général limité parce que c'est l'enseignant lui-même qui les met en place dans le cadre de sa liberté professionnelle, souvent en fait. Et l'évidence, les preuves sont assez fortes et sont basées là sur des preuves expérimentales et quasi-expérimentales. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau international? Quelles sont les pratiques, pourquoi ça ne se fait pas plus et quels sont les pays où ça se fait plus en fait? On peut dire qu'il y a trois conditions favorables à la mise en œuvre, et c'est là peut-être qu'on retrouve justement l'aspect de comparaison internationale. Qu'est-ce qui caractérise en fait comme groupe ces pays qui sont plus performants dans la lutte contre les difficultés? Alors ces trois conditions, et c'est la dernière partie de mon discours, je vais terminer là-dessus, c'est d'avoir des enseignants bien formés, qui sont soutenus par des chefs d'établissement et par un réseau des pairs, et qui ont des multiples occasions d'échange et d'apprentissage informel. Donc quelque part, c'est la formation initiale, mais encore plus la formation continue des enseignants, la formation professionnelle continue, et non seulement la formation professionnelle de caractère formel, qui participation à des cours, en externe, mais aussi les occasions informelles d'apprentissage pour les enseignants. J'ai envie de dire que si l'apprentissage coopératif et le tutorat par les pairs, ça ne marche pas que pour les élèves, ça marche aussi pour les enseignants. Et donc, il faut des conditions de travail pour les enseignants qui permettent de mettre en place ce genre d'occasion informelle d'apprentissage, d'amélioration continue des pratiques. La deuxième condition, c'est d'allouer les ressources les meilleures là où les défis sont les plus grands. Et ça, on voit aussi à partir de PISA que les pays dans lesquels les ressources sont plus inégalement réparties entre les établissements qui concentrent les difficultés et les établissements avec un public plus aisé sont les pays dans lesquels les taux d'échec est souvent le plus élevé. Et troisièmement, c'est avoir des dispositifs qui permettent d'identifier rapidement les difficultés afin d'agir pour prévenir les difficultés, l'échec, plutôt que pour remédier l'échec.
Merci beaucoup pour votre intervention.